au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Langue française, langue arabe, des points de rencontre, l'arabe et le français. Lointaines par leurs origines, ces deux langues se sont croisées et influencées depuis près d'un millénaire. Tel est le sujet d'une série d'émissions que nous vous proposons sur Canal Académie. Et la toute première émission va vous présenter l'ouvrage d'Henriette Walter. C'est un ouvrage écrit avec Bassam Barakeh, qui est professeur de linguistique française et arabe à l'Université de Beyrouth. Mais dans notre studio, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Henriette Walter, votre livre « Arabesque, l'aventure de la langue arabe en Occident » est paru chez Robert Laffont aux éditions Robert Laffont et les éditions du Temps. C'est une co-édition donc. L'aventure de la langue arabe. Je remarque, Henriette Walter, que vous aimez beaucoup ce mot « aventure ». Plusieurs de vos livres portent ce titre.
Parce que les langues, quand on commence à travailler sur les langues, on se rend compte que c'est toujours une aventure. C'est-à-dire qu'une langue ne peut pas rester immobile, elle bouge tout le temps, et donc c'est comme une aventure. Et on a des tas de surprises, comme quand on voyage, voilà.
Alors, Henriette Walter a publié « L'aventure des langues en Occident », « L'aventure des mots français » C'est venu d'ailleurs, qui a été un grand best-seller, traduit en beaucoup de langues, je suppose.
Pas l'aventure des mots français venus d'ailleurs, mais l'aventure des langues en Occident a été traduit dans beaucoup de langues, en particulier deux fois en portugais, avec le portugais du Portugal et portugais du Brésil, deux fois. Et à l'heure actuelle, va sortir bientôt une traduction en grec moderne. Et je dois aller à Athènes pour la sortie de cette traduction. Mais il y a eu traduction en espagnol, en italien, pas en anglais. Voilà, pour l'instant.
Écrire des livres sur les mots, Henriette Walter, c'est aussi une aventure pour vous parce que vous courez le monde pour aller parler de vos livres.
Oui, c'est-à-dire que finalement, vous savez, quand on a écrit sur les langues en Occident, alors il y a des Italiens, des Espagnols, il y a aussi des gens de régions particulières d'une langue où on parle une langue un petit peu particulière qui vous invitent parce qu'ils vous disent « Ah, vous avez parlé du frioulan. Oh, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien, merci. Alors qu'est-ce que c'est que le frioulan ?» C'est du latin tel qu'il a évolué dans les Alpes. Et donc, c'est une langue italienne, à vrai dire, c'est même dans les Dolomites. Et c'est donc une langue, c'est du latin, évolué dans le nord-est de l'Italie. Voilà.
Au moins, on aura déjà appris une première chose. Henriette Walter, votre livre qui s'intitule « Arabesque, donc l'aventure de la langue arabe en Occident » laisserait penser que vous parlez uniquement de la langue arabe ou en tout cas que vous centrez votre livre sur l'arabe. Est-ce le cas ?
Alors, c'est centré sur l'arabe, mais il faut dire que lorsqu'on commence à parler d'une langue, on est obligé de parler des gens qui ont parlé cette langue. Mmh. Et donc, leur histoire, la langue est toujours tributaire de l'histoire des gens qui l'ont parlé. Et en particulier le français, nous en savons quelque chose pour le français, mais nous en savons aussi beaucoup pour l'arabe.
Alors, que sait-on justement, précisément, des origines lointaines de la langue arabe ?
Alors, il y a d'abord une légende qui est très amusante, mais ça n'est qu'une légende. C'est le fait que c'est une histoire entre la reine de Saba et le roi Salomon.
Je suppose.
C'est exactement, le roi Salomon. Alors, on dit que le roi Salomon était un grand savant, qu'il savait parler toutes les langues, même les langues des animaux, et donc en particulier des oiseaux. Et un jour, il avait réuni toute sa population autour de lui, hommes et bêtes, et il se rend compte que la huppe n'était pas là. Et il dit, mais enfin, pourquoi n'est-elle pas là ? C'est inadmissible, je ne pourrais lui pardonner que si elle a une bonne excuse. Alors, il envoie quelqu'un pour voir cette huppe, elle arrive et elle dit, ben voilà, je reviens d'un royaume, le royaume de la reine de Saba, où il n'est pas question d'adorer un dieu unique. On adore beaucoup de dieux différents. Et le roi lui dit, eh bien, écoutez, il faut aller la voir, cette dame, et lui dire qu'il faut absolument, autrement, je vais lui envoyer mes armées
Donc il veut la convertir.
Donc il veut la convertir. Elle croit que ça va s'arranger avec des cadeaux. Les cadeaux ne font rien à l'affaire. Ah. Et puis finalement, elle vient elle-même. Et on dit que les lettres qu'ils ont échangées étaient des lettres en très vieil arabe. Voilà. C'est quelque chose à quoi on pense, parce qu'on aime bien que la langue arabe, pour les gens qui travaillent sur l'arabe, on aime bien qu'elle ait ses racines un petit peu mythiques, un petit peu légendaires. Voilà.
Néanmoins, pour vous qui êtes linguiste, Henriette Walter, et je vais d'ailleurs préciser que vous êtes professeur honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne et membre du Conseil supérieur de la langue française et aussi du Conseil international. Quelle est la différence entre les deux ?
Alors, c'est très facile. La première, c'est seulement la langue française en France.
En France,
et bien sûr les colonies, ex-colonies, etc. Et le Conseil international de la langue française est présidé par M. André Gauss, qui est le gendre, comme vous savez probablement, de Grevis, et qui a continué l'œuvre de Grevis, qui est le bon usage, et qui est belge. Donc, il est question dans le Conseil international de la langue française de parler de toutes les régions où la langue française est une langue parlée dès son plus jeune âge, disons.
Alors, ces précisions étant données sur le Conseil à la fois supérieur de la langue française et international, j'en reviens à ma question, Henriette Walter. Donc, vous êtes professeur honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Alors, quand on est linguiste, l'arabe, on le classe dans les langues sémitiques. C'est tout de même une première surprise lorsqu'on lit votre livre.
Oui, parce qu'il faut rappeler que l'arabe et l'hébreu sont des langues sœurs. Voilà ce qu'il faut dire pour commencer. Alors, parmi les langues sémitiques, il y en a qui ont disparu,
oui,
et il y en a qui ont continué à vivre. Alors, il y en a une que l'on connaît bien, parce qu'on connaît les Sumériens. On sait que Sumer, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est là qu'est née l'écriture, mais que cette écriture a été une écriture un petit peu particulière, puisqu'elle s'écrivait sur des briques molles, avant cuisson, disons, et avec des coins, d'où le nom de écriture cunéiforme. Alors, cette langue, donc, c'était l'Akkadien avec deux K, hein, et non pas avec un C, parce que l'Akkadien, l'autre, ce serait celui du Canada, n'est-ce pas, hein? Ce serait
ne confondons pas.
Cousins.
Donc, celui-là, quatrième millénaire avant Jésus-Christ.
Exactement. Et donc, il y a des inscriptions sur des statues, sur des livres, ces briques-là.
On a beaucoup de traces de l'Akkadien.
Et c'est intéressant parce que justement c'est ce qu'il y a de plus ancien et que ça raconte au fond l'histoire de l'humanité, puisque c'est là que tout a commencé pour l'écrit. Puisque en fait, pour nous linguistes, nous ne pouvons commencer à dire quelque chose sur la naissance des langues qu'à partir du moment où il y a une écriture. Avant l'écriture, nous ne savons rien dire. Nous ne pouvons faire que des hypothèses. Et bon, les hypothèses, elles voient.
Donc, les linguistes travaillent sur l'écrit, qu'on se le dise.
Donc,
autre langue sémitique disparue.
Donc, disparue. Eh bien, on a eu aussi le babylonien qui a suivi, disons, l'akkadien et l'assyrien, puisque j'ai parlé de Sumer, etc. Alors, après ça, il y a le phénicien et le punique, qui toutes deux ont disparu. Il faut savoir que, j'ai dit tout à l'heure qu'il était important de parler de la naissance de l'écriture. Mais il est encore plus important peut-être de parler de la naissance de l'alphabet. Et l'alphabet, ça n'est pas n'importe quelle écriture. Dans alphabet, on voit le grec alpha et bêta, c'est-à-dire voyelle et consonne. Bon. Mais il faut savoir que les Phéniciens, qui étaient des sémites, donc, hein, ils parlaient une langue sémitique, n'écrivaient que les consonnes. Les consonnes. Mais lorsque les Grecs ont emprunté cet alphabet, quelque chose que nous appelons maintenant l'alphabet sémitique, lorsqu'ils ont emprunté cet alphabet, ils ont pris des signes de consonnes pour leurs voyelles. Parce que, alors qu'il est possible d'écrire une langue sémitique uniquement avec des consonnes, peut-être qu'on en dira tout à l'heure quelque chose sur l'arabe, l'importance de la racine consonantique, pour nos langues indo-européennes, comme le grec ou le latin ou les langues celtiques, sans voyelles, on est coincé, on est perdu. Donc, on en avait besoin. Et il faut savoir que, par exemple, alpha, pour nous, c'est une voyelle, mais dans la langue sémitique en question, c'était une consonne. Et quelle était cette consonne? C'était E. Alors, évidemment, pour nous, c'est pas une consonne. C'est une façon de tousser, d'une certaine manière. Mais comme on entendait un A derrière, on a pensé que c'était bon pour noter le A. Et qu'est-ce que c'était que ce mot ? Parce qu'en fait, au début, dans l'alphabet sémitique ancien, celui des Phéniciens, c'était toujours des représentations d'un animal, d'un objet ou d'un homme. Et en ce qui concerne Alpha, eh bien, Alpha, c'était un taureau, en tout cas un bovin, avec les cornes en l'air. Donc, ça représentait à peu près un animal, une tête d'animal. Lorsque les Grecs l'ont emprunté, ils lui ont fait faire un petit tour. En le tournant vers la gauche, ça nous donne Alpha minuscule. Et si on le retourne vers le bas, bien, ça nous donne l'alpha majuscule et notre grand A, en latin, disons, avec les deux cornes qui sont en bas. Autrement dit, c'était à l'origine une image, et puis ça a été un petit peu transformé. C'était au début une consonne, c'est devenu une voyelle pour nous, et aujourd'hui, nous profitons de cet alphabet sémitique transformé par les Grecs, et ensuite passé chez les Étrusques. Alors oui, vous voyez, ça a fait un petit voyage. Là encore, c'est une aventure, vous voyez. C'est passé chez les Étrusques et c'est arrivé chez les Romains ensuite. Alors on dit pourquoi Étrusques ? Pourquoi ?
Bien sûr.
Parce que alpha, bêta, gamma, on devrait dire A, B, G, D. Et non pas C, D. Bon, il faut se rappeler qu'en latin, c'était que. Hein, c'était pas ce. Hein, le C. Le C du latin.
T'es oui, il
que,
est dur.
Bien sûr,
oui.
Il est dur. Voilà. Donc, pourquoi que et pas gue ? Eh bien, parce que en étrusque, on ne faisait pas la distinction entre que et gue. Et voilà pourquoi nous avons ce que. Et notre gue, il est arrivé un petit peu plus loin. A, B, C, D, E, F, G. Il est allé plus loin à un endroit où nous n'avions pas besoin de cette consonne du sémitique.
Voilà. Alors, voilà, raconté par Henriette Walter, l'histoire de l'alpha, bêta et autres voyelles et consonnes de ces langues sémitiques. Mais il y a encore d'autres langues sémitiques, Henriette Walter.
Absolument. Donc, nous avons l'hébreu. Alors, l'hébreu et l'araméen. Alors, il faut savoir que l'hébreu, c'est donc la langue de la Bible. Mais il faut savoir aussi qu'à partir d'une certaine époque, vers le 3e siècle, 3e siècle avant, bien sûr, l'hébreu a commencé à être recouvert par une autre langue sémitique également, qui était l'araméen. Mmh. On sait d'ailleurs que Jésus parlait araméen et non pas hébreu. Mmh. Donc voilà cette langue qui a repoussé dans un certain domaine l'hébreu. L'hébreu qui est resté une langue liturgique pendant des siècles et qui a connu une espèce de renaissance et qui a été vraiment remise en état, d'une certaine manière, avec l'état d'Israël d'aujourd'hui.
Donc on peut dire qu'il y a un hébreu littéraire, enfin à l'époque ancien. Alors, il y avait un hébreu littéraire ancien et que...
Qui était seulement utilisé par les rabbins, par les hommes de science, vraiment dans ce tout petit domaine. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont pu la faire ressusciter d'une certaine manière. Évidemment, en l'améliorant, en la modernisant, puisqu'on ne pouvait pas parler de train, de voiture ou d'avion avec cette langue. Et donc, il y a eu depuis, bien entendu, il y a eu beaucoup d'influence d'autres langues, de tous ces gens qui sont partis en Israël et qui s'y sont installés, aussi bien pour la langue anglaise que pour la langue française d'ailleurs, ou pour la langue arabe. Puisque, comme vous savez, en Israël, il y a deux langues officielles, l'hébreu et l'arabe.
Donc c'est vraiment une langue qui a une histoire, qui a revécu, qui a failli mourir, qui
unique.
Est renée. Enfin,
voilà.
Il y a une histoire de l'hébreu.
C'est une histoire unique au monde, parce qu'on n'a jamais vu une chose pareille dans l'histoire du monde. Parce qu'on sait bien que les langues sont mortelles, comme disait Valérie, les civilisations sont mortelles, mais nous savons que les langues sont mortelles. L'étrusque, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, l'étrusque a disparu sans revivre.
Dommage.
Malheureusement.
Est-ce que l'araméen, par contre, lui, est encore parlé ?
Oui.
Dans certaines communautés ?
Oui, exactement. C'est parlé à l'heure actuelle par des communautés catholiques. C'est le syriaque. C'est encore un reste, disons, de l'araméen.
Alors, y a-t-il d'autres langues sémitiques ?
Bien sûr. Alors, il y a bien sûr les langues du Sud, disons, occidentales du Sud, parmi lesquelles le Sud-Arabique, avec les langues éthiopiennes. Bon, mais là, c'est peu de gens, bien sûr, mais enfin, elles existent. Et puis l'arabe.
Bien sûr.
Et
l'arabe qui va faire l'objet de
toute notre
série d'émissions Henriette Walter.
Alors, il faut savoir qu'au 5e siècle, cette langue était parlée par très peu de gens qui étaient dans la péninsule arabique et qui étaient des Bédouins.
C'est sur cette interrogation pour savoir après comment l'arabe s'est développé que nous allons terminer cette première émission, Henriette Valter, et que nous vous retrouvons prochainement pour une seconde émission qui va être consacrée justement à la langue arabe dans son rapport avec l'expansion de l'islam, car il ne faut pas confondre les deux, comme vous nous l'expliquerez. Merci, à bientôt Henriette Valter.
À bientôt.